Rendez-vous exceptionnellement jusqu'à 14h aujourd'hui pour la deuxième partie de cette grande table spéciale Chicago. Réunis derrière la bannière « The Trump-Pence Regime Must Go », ils étaient samedi une petite centaine de manifestants au pied de la Trump Tower dans le Loop de Chicago. Les grandes marches des lendemains qui déchantent semblaient bien loin. Dans la ville des Obama, qui organisait la semaine dernière le lancement de leur fondation, entourée de responsables civiques du monde entier, loin de la rue, les esprits restent-ils mobilisés ? Donald Trump, un an après, quel bilan ? Ils ne l'avaient pas vu venir, pour certains, après la sidération. Le temps peut-être de la riposte des intellectuels. Autour de 13h50, rencontre en tête à tête avec le romancier des marges, Michael Collins. Depuis plus de 15 ans, il est devenu roman après roman, un observateur pessimiste de la société américaine. Mais d'abord, la bataille des images et des idées. Est-ce le réveil du débat démocratique ? Depuis un an, la parole recommence-t-elle à circuler ? Et si oui, comment ? À l'occasion de cette spéciale Trump, un an après, rendez-vous autour d'une grande table ronde avec quatre intellectuels de l'Illinois. Tout d'abord, Tom Mitchell, bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Professeur d'histoire de l'art et de littérature à l'Université de Chicago, rédacteur en chef de l'influente revue interdisciplinaire Critical Inquiry, fondée en 1974. Vous êtes un des pères des Visual Studies. Vous êtes notamment l'auteur de Cloning Terror ou La guerre des images du 11 septembre au présent, un ouvrage traduit en France aux éditions Les Prairies Ordinaires. À vos côtés, Sophia Rosenfeld, bonjour. Historienne, professeure à l'Université de Pennsylvanie, vous avez publié Le sens commun, histoire d'une idée politique au pur, cette sagesse des gens ordinaires comme idéal politique puissant, une logique populiste qui a façonné la démocratie moderne. Vous écrivez également régulièrement pour la revue The Nation. À nos côtés également, Alexander Hammond. Bonjour à vous.
Bonjour.
Originaire de Sarajevo, vous êtes écrivain, vous vivez aujourd'hui à Chicago et ce depuis 25 ans. Vous collaborez régulièrement au New Yorker et vous êtes l'auteur du projet Lazarus, paru en France en 2010 chez Robert Laffont. Une quête d'identité, une réflexion, comme souvent dans vos livres, sur le statut de l'étranger. Enfin, Françoise Meltzer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de littérature comparée, vous dirigez d'ailleurs le département à l'Université de Chicago et membre du comité éditorial de la revue Critical Inquiry. Merci beaucoup à tous les quatre d'être là. Merci aussi à vos voix françaises, Marcel Teboul et Jessica Croquette, qui vont nous permettre de bien nous entendre et de bien nous comprendre ensemble jusqu'à 14h. On commence peut-être avec vous, professeur Mitchell. Donald Trump, qu'a-t-il fait en un an ? Est-ce qu'il a, à vos yeux, déjà profondément transformé l'Amérique ?
Je pense que Trump fait son mieux pour transformer l'Amérique. Il n'a rien réussi au niveau législatif, mais au niveau administratif, il a pu créer des problèmes au niveau de l'éducation, la loi, le processus électoral et presque tous les domaines de la vie américaine que vous pouvez imaginer. Moi, je me préoccupe largement de ces attaques sur l'éducation, l'enseignement, les sciences, l'environnement. Je pense que tous les Américains ont maintenant l'impression de vivre un moment de cauchemar historique. Il y a un an, on était dans une époque plutôt normale et puis le 8 novembre 2016, on s'est réveillé dans un cauchemar et c'était un choc total pour la plupart des Américains, y compris, je pense, Trump et ses soutenants. Parce que je pense que personne ne croyait qu'il allait se faire élu. C'est un moment très difficile aux États-Unis en ce moment, lorsqu'on a une vérité alternative, des fausses informations, l'utilisation de l'Internet pour semer de la confusion. Et donc, je pense que notre travail en tant qu'intellectuel, c'est de résister à la normalisation. Un très bon avocat a dit à un moment donné que lorsque le fascisme arrive en Amérique, ce sera emballé dans un drapeau américain. Et Trump s'est bien entouré de ce drapeau pour rendre l'Amérique bonne encore.
Françoise Pelzer, est-ce que vous parleriez, si vous vous projetez un an en arrière, d'un aveuglement des intellectuels? Peu avaient prédit, imaginé cette élection. Maintenant, il est là, il a gagné. Ça fait même un an qu'il est, presque un an qu'il est à la Maison Blanche. Est-ce que cette victoire est synonyme pour vous d'une défaite des idées?
Je ne sais pas si c'est la défaite des idées, mais c'est certainement la défaite de faire fonctionner les idées. C'est-à-dire qu'on a été très étonnés, évidemment, quand Donald Trump a gagné. D'abord parce que les sondages disaient que ce n'était pas possible, que ça serait Hillary, qu'il n'y avait aucun problème. Mais je pense, et ça on devrait en parler davantage, qu'un des problèmes, c'est que le pays est visiblement divisé entre ceux qui soutiennent Trump, des républicains qui ne l'aiment pas trop mais le soutiennent quand même, d'une part, et des démocrates d'autre part. Et on ne se parle pas. On n'a aucun contact de vrai, sauf de temps en temps dans les manifs, où on se crie dessus, essentiellement. C'est-à-dire qu'on habite deux bulles complètement différentes. On ne lit pas les mêmes journaux. On ne regarde pas les mêmes émissions à la télé.
Ni les mêmes chaînes de télé.
Ni les mêmes chaînes de télé. Effectivement, on regarde pas les mêmes programmes, on se parle pas, on se comprend pas, et pour les intellectuels, entre guillemets, il faut savoir aussi que les intellectuels aux États-Unis, c'est pas la même chose qu'en France. Hein. Ils ont beaucoup moins de paroles, beaucoup moins d'importance, ils sont lus par beaucoup moins de gens. Mais néanmoins, pour nous, les gens qui soutiennent Trump sont soit vraiment pathétiques, soit incompréhensibles, et inversement. Et tout le problème est là, on ne se parle pas, on ne se comprend pas et on ne s'aime certainement pas du tout. Voilà.
Vous en parlez au présent, on va quand même voir ensemble si les idées ont recommencé à circuler d'une certaine manière, si vous avez réussi, vous, chercheurs, vous, écrivains, à recréer des espaces où aujourd'hui la parole peut être échangée et où peut-être ces points de vue très contradictoires arrivent à se rencontrer, voire à débattre ensemble. Sophia Rosenfeld, en mars dernier, vous avez publié un article sur le président Donald Trump intitulé « La seule chose plus dangereuse que la référence de Donald Trump au sens commun et son rejet de ce même sens commun. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça?
Yes, it's interesting because in certain ways I think Donald Trump is rather conventional Republican of a populist sort, which is to say,
en fait, Donald Trump est un républicain populiste et populaire.
What he has in mind as
c'est difficile de savoir ce qu'il a en tête en tant qu'exemple d'un homme d'affaires ordinaire avec du sens commun de tous les jours. Toutefois, depuis qu'il est devenu président, je pense que l'un des aspects les plus étranges et les plus gênants de sa présidence, c'est en fait un écart par rapport à la réalité. Et au lieu d'avoir de montrer des preuves, il y a une insistance pour dire qu'il a raison, même si les preuves vont dans l'autre sens. En fait, c'est comme si l'on mentait. C'est un mensonge dans une espèce de jeu en essayant de tromper tout le monde. Et de cette façon, je pense que plutôt que d'avoir une espèce de sens commun de la droite, il va dans le mensonge.
Alexander Eamon, de votre côté, est-ce que vous pensez que on a parlé déjà vérité, on a parlé des mensonges, ça va être une distinction qu'il va falloir peut-être éclairer ensemble, parce que à vous entendre tous, la place du mensonge dans la société actuelle serait de plus en plus importante. Est-ce que pour vous Donald Trump est une formidable illusion collective? Quelles sont pour vous les images un peu marquantes de cette première année?
Well, Donald Trump.
Non, bien, Donald Trump n'a aucune substance. C'est un vide humain, un narcissiste pathologique qui est plutôt un symptôme qu'une cause des choses. S'il y a une entité dans la vie politique américaine qui a une agence dans ce contexte, c'est le Parti républicain, en fait. Donald Trump est incapable de dévouer quoi que ce soit d'autre, une pensée à quoi que ce soit, qui que ce soit d'autre, à part lui-même. Mais il a un programme de destruction du corps de politique américain, d'un système de démocratie qui est capitaliste. En fait, le programme de destruction appartient entièrement au Parti républicain. Et vous pouvez revenir à plusieurs décennies en arrière pour déceler le moment où le Parti républicain a commencé à s'identifier comme un parti blanc. En fait, ça s'est accéléré avec l'élection d'Obama. Mais avant cela, vous parliez de mensonges et de vérités. les stratégies déployées par Trump et le Parti républicain ont commencé avec Bush. En fait, avant lui, mais Bush et le régime Bush a commencé à créer des fantasmes d'Amérique et du monde et de la guerre contre la terreur et des musulmans et tout cela, et l'ont vendu au public et au monde. L'une des choses dont je me rappelle souvent lorsque je parle de Trump, je ne peux pas me rappeler de la citation exacte, Karl Rove, le conseiller de George Bush, a dit à Ron Silver du New York Times, il a dit, en fait, il a complètement éliminé la réalité basée sur la communauté. En fait, il a dit, nous créons la réalité. Nous. Et en fait, cette idée que le pouvoir crée la réalité, c'est une idée assez incroyable. Mais ils l'ont utilisée, ils ont commencé à créer des réalités. Le Parti républicain a créé des réalités qui sont en fait une situation de pouvoir des Blancs. Et Trump a tout simplement rempli un rôle qui était déjà disponible. Il y avait 17 candidats aux primaires et Trump a été le seul qui n'avait aucune idée idéologique. Il ne parlait que de lui-même et projetait la menace. Mais il a eu le rôle.
Ça paraît un peu paradoxal quand même de dire qu'à la fois que Trump est un hyper narcissique, que c'est presque une coquille vide, et en même temps vous nous dites, Alexander Raymond, que c'est quelqu'un qui a un programme. Même si c'est un programme de destruction, il a quand même un projet qu'il entend porter.
En fait, c'est l'aspect qui est intéressant, parce que c'est précisément sa pathologie qui lui permet d'ignorer complètement toute allégeance à la vérité, à l'idée de l'Amérique ou de la démocratie, ou même d'avoir une empathie de quelque sorte que ce soit, aucune compassion. Je pense que les républicains sont surpris qu'ils s'intègrent tellement bien à leur programme.
Professeur Mitchell, vous êtes aussi un peu sur cette thèse, ce parti pris de la pathologie. Vous dites qu'on est en train de vivre un moment de rupture psychotique dans la psychologie collective, que ce président serait un peu le miroir de l'âme d'un peuple, et vous vous référez à la prophétie de Mencken. Vous évoquez un moment de folie collective.
Oui, je pense que lui, il est représentatif. C'est-à-dire, il y a longtemps, Hitchell Mencken a prédit qu'à un moment donné, le peuple américain allait trouver quelqu'un qui pouvait représenter l'âme profonde du peuple. Quelqu'un qui capte bien jingoïsme, racisme, suprématie de la part des Blancs et ce narcissisme blessé en quelque sorte. Donc je suis d'accord avec Sacha pour dire qu'il est un symptôme. Mais je ne pense pas qu'il est seulement un symptôme parce qu'il a aussi une sorte de prise particulière en tant que vedette de la télévision de réalité. Et sa narcissisme cadre bien avec la mentalité collective de ceux qui le soutiennent. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée que le Parti républicain est synonyme de Trump. Je pense que c'est similaire à ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 30, lorsque les grands industrialistes et les capitalistes de l'Allemagne ont vu cette personne qui faisait un peu le clown, mais qui pouvait quand même unifier des masses de personnes. Et surtout dans certaines circonstances, Trump a bien maîtrisé la psychologie du groupe. Donc, il écoute ces grands groupes de personnes. Et c'est pour ça que même aujourd'hui, lorsqu'il ne se sent pas bien, par exemple, il doit sortir dans les villes rurales pour faire venir 10 000 personnes qui vont venir crier son nom. Et donc, le Parti républicain pensait qu'il pouvait se servir de Trump. Et en fait, c'était la même chose dans l'ère de Nixon, où on essayait de se servir du racisme blanche pour essayer de mieux valoriser le pouvoir. Mais c'est un phénomène où on pense qu'on est en train de créer une arme et puis à un certain certain moment, on n'a plus le contrôle sur cette arme. Maintenant, par exemple, les anciens présidents Bush, père et fils, croient que c'est un monstre et en fait, vient de faire, de prononcer un discours très puissant sur la menace à la démocratie. Et je pense que c'était un peu la même chose dans les années 30 où le droit a commencé à se poser la question, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'il y avait un élément qu'on ne maîtrisait plus et on voulait savoir si on pouvait le renverser. Et aujourd'hui, on ne sait pas si on peut le faire parce qu'on a voulu sécuriser le pouvoir des riches.
Françoise Meltzer, je rappelle que vous dirigez la chaire de littérature comparée à l'Université de Chicago.
Je pense que c'est trop facile de dire que Trump est un idiot ou qu'il est vide. Je pense que, comme dit Trump, il a une facilitation pour manipuler le peuple. Et il y a une histoire que je trouve très intéressante. Son beau-fils dirige un journal. Il l'a fait uniquement comme ça pour se faire de l'argent. Il s'intéressait pas vraiment, mais il y avait un jeune homme qui dirigeait ce journal qui a dit à Trump au beau-fils, comment est-ce possible que votre beau-père ne croit pas aux problèmes de climat, de l'environnement, etc. Et le beau-fils a répondu, mais bien sûr, il y croit, il sait très bien que c'est vrai. Mais il sait aussi que le peuple, parmi les républicains, sa base, croira tout ce qu'il lui dira. Et j'ai trouvé que ça, c'était très intéressant. C'est-à-dire qu'il sait pertinemment ce qu'il fait. Ce qu'il pense, lui, personnellement, n'a rien à voir avec ce qu'il fait. Il fait pour avoir une réaction, pour avoir le pouvoir. Évidemment, il est très narcissique, donc c'est toujours lui. Mais quand même, c'est important de savoir qu'il y a une espèce de lucidité malsaine derrière tout ça, qui n'est pas facilement... on ne peut pas simplement dire qu'il est idiot. C'est encore plus dangereux que ça.
À l'instar de l'écrivain romancier américain Richard Ford, qui dans les colonnes du Monde, ce week-end, estimait que les Américains étaient en train de s'égarer, s'étaient aussi délestés de leur boussole morale. Vous constatez tous une forme d'effondrement moral de la démocratie américaine. Et c'est notamment votre cas, Alexander Hemon. Quand Tom Mitchell dit Sacha, hein, il s'agit donc de vous, Alexander. Est-ce que vous vous sentez plus étranger aujourd'hui à ce pays que quand vous êtes arrivé il y a plus d'une vingtaine d'années aux États-Unis? Dans une tribune en février dernier, cette tribune, vous l'aviez titrée « When neighbors turn to each other ». It happens fast. Quand des voisins se tournent les uns contre les autres, ça arrive très vite. Vous parlez donc de cette psychopathologie trumpiste, vous aussi, et estimez qu'il y a une sorte de violence punitive qui s'insinue en chacun de vous. Comment cette violence rhétorique et politique du président aurait, d'après vous, infusé les mentalités?
Je pense que Trump a une agence, mais je pense également qu'il y a un espoir persistant qu'il va y avoir une correction, s'il y a une malfaisance de Trump. Par exemple, les preuves de la connivence avec les Russes, que d'une façon ou d'une autre, il va disparaître et que l'Amérique va se corriger, ce que nous aimerions tous croire. Mais bien qu'il ait une agence, je pense qu'il est important de lutter contre cette idée que si l'on éliminait Trump de son poste, tout reviendrait à la normale. Trump a une agence dans le contexte qui est créé de façon politique par les républicains, peut-être par hasard, et par la guerre contre la terreur. Et dans ce contexte, il a une agence. Son agence est surtout de créer le conflit. Et les républicains mettent tout leur argent pour faire progresser leur programme et son programme. Mais ils sont en train de brûler les ponts derrière eux. La seule option qu'ils aient maintenant, c'est le conflit, et cela inclut la violence. En d'autres termes, leur programme, celui de Trump, et toute la situation politique du pays, mais également leur plan, leur projet, et peut-être qu'ils n'en sont même pas conscients, c'est d'aller dans la direction du conflit, même avec un conflit armé, y compris la violence au hasard. J'en ai peur parce que j'ai vu des choses comme ça. Et l'un des symptômes de ces situations pré-conflit, c'est ce besoin de déni. Vous devez tout simplement traverser cette crise et tout va se corriger.
Alors Sophia Rosenfeld, je rappelle que vous êtes historienne, professeure à l'Université de Pennsylvanie, que vous avez publié Le Sens commun, histoire d'une idée politique également en France, au pur. Que faire quand un président comme Donald Trump invoque la sagesse du peuple plutôt que celle des experts? Que faire quand un président montre autant de défiance à l'égard des autorités intellectuelles? Il vous faut réagir. Est-ce que dénoncer suffit aujourd'hui?
That's a very important question.
C'est une question très importante. La vérité est que Trump, en fait, a rabaissé le discours dans toutes les directions. Il a essayé de ne pas être généreux et de n'avoir aucune manière autant que possible. C'est très important parce qu'en fait, on se débarrasse de toute notion de civilité et de propriété. En fait, la réponse des intellectuels, c'est tout simplement de montrer les erreurs, de vérifier les faits ou de réaffirmer ce que l'on estime être la vérité. Mais c'est insuffisant. On dirait qu'il y a beaucoup de choses où l'on montre du doigt. Mais la question la plus importante, c'est sans doute si les institutions de la vie américaine sont suffisamment fortes pour s'opposer à lui de façon formelle. Mais nous ne savons pas encore où les tribunaux, le ministère de la Justice, la CIA, le FBI, les diverses agences, ainsi que les universités, seront en mesure de s'opposer à lui. Mais ça ne peut pas être simplement une façon de corriger l'histoire ou de réaffirmer l'importance de l'expertise. Il faut que ce soit institutionnel. Et je pense que nous attendons de voir, dans un certain sens, qui va gagner cette bataille. J'ai vraiment l'impression qu'on ne sait pas à ce point. Et c'est pour cela que nous avons tous peur.
Émission spéciale Grande Table américaine jusqu'à 14h et Grande Table ronde avec mes invités ici à Chicago, le professeur Mitchell, Sophia Rosenfeld qui est historienne, Alexandra Raymond qui est écrivain et la professeure de littérature comparée, Françoise Meltzer. On est donc ensemble, tous ensemble jusqu'à 14h.
Chicago.
Look at Chicago. What the hell is going on in Chicago?
La Grande Table à Chicago. Olivia Gesbert.
Et se tient actuellement, ici, à Chicago, peut-être preuve de ce réveil intellectuel auquel beaucoup d'entre vous contribuez, souhaitez, en tout cas à votre manière, un festival, le Chicago Humanities Festival, où était Claire Maillot de la Grande Table.
Oui, parce que nous sommes arrivés à Chicago au beau milieu de ce temps fort, de ce que nous appellerions la vie des idées, donc le Chicago Humanities Festival. Et pour mesurer l'ampleur de cette manifestation, je vous donne juste quelques chiffres, quelques données. Ça dure 3 semaines. Il y a 90 rencontres qui sont organisées dans de très nombreux quartiers de la ville. On a compris par la voix des artistes dans la première partie l'importance des communautés ici, des quartiers. Ce sont presque 150 intervenants donc qui ont été invités à réfléchir autour d'une thématique, belief, la croyance, une thématique qui résonne avec l'actualité, un an donc après l'élection de Donald Trump, qui a marqué une crise de confiance dans les médias, dans la parole de l'expert, vous en parliez jusqu'à présent. La vie intellectuelle aux États-Unis est en crise, c'est le constat de la directrice artistique du festival, Alison Cuddy. Je l'ai rencontrée donc hier, au Force Presbyterian Church, un des lieux qui accueille ces rencontres. Et pour elle, Chicago, et donc ce festival, pourrait être un laboratoire pour une meilleure circulation des idées entre citoyens, experts et artistes. Écoutez-la.
Je pense que on a une sorte de crise intellectuelle aux États-Unis, mais je pense qu'il y a quelque chose de positif dedans. Parce que ceci veut dire que nous ne devons pas dépendre d'autres pour résoudre tous nos problèmes ou pour tout savoir. Il faut rester dans sa propre file et vraiment se concentrer sur son propre domaine. Donc ça revient à nous tous, d'une certaine manière, d'être l'intellectuel dont on a besoin en ce moment, d'étudier, d'apprendre notre histoire et de sensibiliser les autres. Donc nous savons que les gens viennent assister à ces programmes parce qu'on est curieux et on veut avoir ces rencontres. On a des experts devant soi. Nous croyons bien sûr dans les experts qui savent beaucoup. On peut avoir aussi un très bon échange avec la personne à côté ou lors des séances de questions-réponses des autres spectateurs. Donc, nous essayons bien sûr de créer ces opportunités. Ce matin, nous avons un petit déjeuner pour beaucoup des intervenants et les spectateurs qui vont venir ensemble pour se parler de ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils disent. Donc, c'est ce genre de débat et de communauté intellectuelle que nous voulons créer, parce qu'on en a besoin. Il faut avoir des liens qui se tissent, des gens qui se tissent des liens par le biais des idées. Parce que sans cela, c'est quoi notre monde? Donc nous croyons que c'est un aspect clé du débat public. Nous sommes une très bonne institution culturelle à Chicago, mais nous sommes aussi une institution civique. On essaie de faire la promotion des échanges civiques. Donc nous avons un esprit de collaboration, mais aussi le rôle de l'artiste dans la sphère intellectuelle ici. Je pense que ça existe plus ici que dans toute autre ville, du moins des États-Unis. Ce sont les artistes qui sont les moteurs de l'engagement intellectuel et des idées en général, ce qui fait que la vie soit très spéciale.
Cette communauté intellectuelle décrite par Alison Cuddy, est-ce que vous y croyez, Tom Mitchell? Est-ce que cette demande d'horizontalité, ça peut être aussi une réponse à cette crise de confiance dans la parole de l'expert?
Je dois croire que oui. Je pense que pour les intellectuels, il n'y a pas d'autre choix. On peut choisir le désespoir, bien sûr, et se dire que le problème des États-Unis est tellement profond et systémique qu'on est sans espoir. Peut-être le moment est venu pour déménager au Canada. En 1968, lors d'une autre période très difficile aux États-Unis, lorsqu'on avait la guerre du Vietnam, j'ai pensé à déménager au Canada, mais je ne l'ai pas fait et je ne vais pas partir maintenant non plus. Je pense que les intellectuels ne peuvent pas se contenter de rester dans leur tour d'ivoire. Et en fait, ce n'est même pas une possibilité parce que les institutions académiques américaines sont sous attaque en ce moment. Et donc, on a eu Richard Spencer qui a mené la chanson Hail Trump après l'élection. Et donc, on envoie des intervenants du droit au campus universitaire, par exemple, pour inciter des étudiants à mener des émeutes violentes, ce qui fait en sorte que on ne donne plus vraiment de poids aux universités américaines. Donc, cette idée qu'on peut rester au sein de notre tour d'ivoire, ce n'est pas vrai. Donc, pour vous donner un exemple concret qui me touche personnellement, moi, je soutiens des groupes tels que les Voix juives pour la paix, les étudiants pour la justice en Palestine. Et donc, je suis maintenant sur une liste noire et il y a des affiches avec mon nom et aussi les noms des étudiants qui sont affichés sur les campus universités. Pour moi, je suis professeure avec un poste à vie dans mon université, donc ça ne me pose pas problème. Mais pour les étudiants, ça pose problème. Donc, les universités doivent se réveiller pour dire « nous devons en faire quelque chose ». Parce que nous n'avons plus cette même autonomie.
Françoise Meltzer, vous pensez comme Tom Mitchell, j'imagine qu'il faut maintenant que les intellectuels descendent dans l'arène, confrontent leurs idées, discutent ensemble, fassent circuler aussi les idées. Mais quelles sont les difficultés pour eux?
Eh bien justement, le mot « circuler ». Parce que Trump dit à tout le monde, enfin à sa base, que tout ce qu'on fait, nous, les intellectuels, tout ce que dit le New York Times, CNN, MSNBC, c'est-à-dire les chaînes un peu de gauche, est faux. Et ce qu'on oublie dans cette conversation, c'est que le Parti démocrate, à l'époque de l'élection, a vraiment abandonné le peuple, hein, enfin la classe ouvrière, si vous aimez mieux. Et ils l'ont senti. Et c'est pour ça que dans ce qu'on appelle le Rust Belt, c'est-à-dire Wisconsin, etc., enfin le Midwest, ils sont partis pour Trump. Et maintenant, il y a une lutte, le Parti démocrate, c'est-à-dire que Hillary n'est même pas allée dans ces États-là pour essayer d'expliquer son point de vue, qui n'était d'ailleurs pas le leur. Et maintenant, il y a une lutte entre, par exemple, les démocrates qui sont du côté de Bernie Sanders, qui dit qu'il faut revenir vers ces gens et les extraire de Trump, et d'autre part, Trump qui est en train de, comment dire, stimuler tout ce qu'il pense, que tout ce qu'on dit, nous, est faux. Alors,
C'est pour ça que j'ai commencé par parler des deux bulles. C'est-à-dire, c'est très difficile. On peut toujours parler entre artistes, entre écrivains, entre universitaires. Mais si on n'est ni écouté, ni lu, ni cru, on arrive à quoi exactement?
Et je pense que c'est difficile, c'est de sortir de cet entre-soi. C'est
ce voilà. Alors, la question, comment est-ce qu'on va faire pour sortir de ces deux bulles? Parce que si on ne le fait pas, on n'arrivera à rien. Mais je suis très pessimiste. Hein. Je vois pas du tout ça d'un bon œil.
Sophia Rosenfeld, cette rhétorique du bon sens populaire que vous évoquiez jusqu'ici dans la bouche de Donald Trump est plutôt perçue comme étant l'apanage de la droite et des partis populistes un peu partout dans le monde. Mais c'est aussi le défi des démocrates aujourd'hui, des progressistes, de reconstruire ce lien avec le peuple qu'ils ont abandonné en développant une vision qui s'inspirerait du sens commun du peuple, justement, de recréer des idées et des représentations à partager.
Je pense qu'il est impératif qu'il y ait un effort dans ce sens. Lorsque je vois quelqu'un comme moi, qui est à la fois un professeur et espère avoir une vie en tant que personne politique à l'extérieur de l'université également, nous avons deux fonctions. L'une est, dans notre rôle d'enseignant, nous avons une obligation de modeler, de façonner certaines valeurs qui vont à l'encontre du climat politique et d'enseigner aux étudiants comment être sceptiques des déclarations de toutes sortes, mais également de leur enseigner comment trouver la vérité, que ce soit dans le domaine des humanités, de la science, de comprendre comment créer une connaissance, mais des connaissances vraies. C'est une fonction interne du professeur. Dans mon autre capacité, je pense que, comme tout le monde à cette table s'est déjà exprimé dans ce sens, il est impératif de trouver des façons, non pas de nous renfermer, mais plutôt de façonner les mêmes valeurs dans le monde extérieur. Et je pense qu'il est important que nous ne voyons pas seulement les idées, que le populisme soit nécessaire ou que ce soit un phénomène démagogue ou alors de la droite ou de l'administration en place. Mais nous devons trouver des façons de ramener le bon sens dans le domaine des politiques démocrates avec un grand D et un petit D, c'est-à-dire une politique qui essaye de trouver le dénominateur commun et de créer un monde où la démocratie peut fleurir. Et donc, je ne pense pas que nous devions abandonner, baisser les bras, tout simplement parce que l'administration actuelle cache les choses.
Mais qu'est-ce qu'il dit, ce bon sens, ce sens commun? Qu'est-ce qu'il crie que vous, tous, peut-être autour de cette table, vous n'avez pas entendu et que Donald Trump, lui, aurait reçu comme message?
De façon classique, dans le sens classique, même si quelqu'un comme Hannah Arendt a suggéré que le sens commun peut être une fondation commune à partir de laquelle un consensus de bas niveau entre les citoyens peut exister, dont diverses positions peuvent fleurir. La démocratie produit cela. C'est peut-être une notion idéaliste, mais si nous abandonnons cela, je pense que nous abandonnons l'idée que la démocratie peut fonctionner. Ensuite, nous nous retrouvons dans un endroit où la loi du plus fort, en fait, prévaut. Je pense que même sans être idéaliste, je pense que la possibilité de sens commun en tant que point commun à partir duquel les politiques ne reflètent pas seulement les intérêts partisans, mais le bien commun, en espérant que cela va émerger.
Alexander Eman.
Je pense, c'est une image simplifiée, mais il y a un conflit entre le capitalisme et la démocratie dans ce pays. On a atteint le point où, en fait, ils s'excluent l'un l'autre. En tout cas, le conflit est organisé par Trump et son parti républicain. En tant que démocratie, qui pourrait mener... Et je vais essayer de le dire de cette façon. Si les républicains se soumettaient à des mécanismes non teintés de démocratie, ils perdraient les élections. Ils doivent utiliser la manipulation politique et activer le ressentiment des Blancs et du nationalisme pour gagner. C'est sans doute la dernière élection où ils pouvaient gagner avec une majorité blanche. En fait, c'est la logique qui sous-tend tout cela. La raison pour laquelle ils ont gagné ces élections, c'est pour reconfigurer la société de façon à ce qu'elle soit positive envers le capital et le capitalisme. Et donc, pour continuer à gouverner en tant que parti des minorités, ils doivent défaire les
mécanisme de la démocratie. Et ça, c'est l'assaut auquel nous sommes confrontés, que nous voyons. Trump est l'outil de cet assaut. L'objet de l'assaut est de transférer la richesse de façon irréversible. Et donc, nous en sommes à un point où nous devons défendre le fonctionnement élémentaire de la démocratie dans ce pays de façon à ce que nous puissions arrêter la redistribution de la richesse vers le haut. Il y a une distinction, en tout cas une différence principale entre ceux qui croient en la démocratie et ceux qui croient en le capitalisme. Un certain chevauchement, bien entendu, mais il y a également la complication de la race et du pouvoir américain dans toute la situation. Mais nous devons nous engager soit envers la démocratie, soit abandonner au profit du capitalisme.
Ça, c'est un discours qui peut être entendu, vous pensez, Tom Mitchell, dans un contexte comme celui-ci, contexte de scandales financiers qui se multiplient, pas simplement aux États-Unis, on le voit encore avec les révélations qui ont commencé hier, des Paradise Papers, dans un contexte aussi où le terrorisme crispe quand même toutes nos sociétés, et c'est le cas aussi aux États-Unis, tant avec la fusillade du Texas qu'avec l'attentat qui a été commis la semaine dernière à New York. Vous pensez que ce type de discours peuvent être entendus aujourd'hui, Tom Mitchell, Alexander Hamon?
On a parlé un peu des problèmes systémiques de la démocratie américaine et il me semble que là, il s'agit de la fondation même. Le capitalisme et la démocratie est un pays aussi qui était largement fondé sur une culture de racisme. Je pense qu'il y a ces deux aspects contradictoires qui ont des points d'intersection dans la culture américaine. L'idéologie du droit américain a toujours eu l'idée de faire confronter la classe ouvrière blanche et les immigrés. Donc, je pense que Trump a déclaré qu'il était candidat à la présidence au même moment où il disait que Obama n'était pas un vrai Américain. Donc on avait ces deux choses en même temps. Ensuite, on a l'influence de l'argent, la décision du tribunal Citizens United qui a autorisé un financement illimité dans la vie politique. Et ensuite, on voit par le biais des médias sociaux qu'on peut aussi avoir des fonds illimités en monnaie russe, par exemple, qui peut entrer aux États-Unis par toutes sortes de canaux de médias sociaux. On a YouTube, Twitter, beaucoup de mécanismes automatisés qui permettent de diffuser des messages mensongères, des images d'Hillary Clinton en tant que le diable. Et donc, on a aussi les médias principaux aux États-Unis qui n'ont plus leur puissance. Et lorsqu'on a, nous, les intellectuels qui se trouve autour de cette table, on a un peu l'impression de parler dans le vide. Mais je pense qu'Alexandre a bien identifié la corruption profonde de la démocratie américaine par l'argent. Les frères du Coca-Cola peuvent influer sur une élection. Toutes ces grandes sociétés peuvent avoir un impact. Donc, lorsqu'on aura traversé cette période horrible, et j'espère qu'on va bien la traverser, il y aura beaucoup de travail à faire pour réparer le système. Le système électoral même a été corrompu. Il faut garder à l'esprit qu'Hillary Clinton a remporté 3 millions de votes populaires de plus que Trump. Et à Michigan, il s'agissait d'à peu près 60 000 votes qui ont fait en sorte que Donald Trump a remporté l'élection. C'est basé sur le système des grands électeurs. Donc tout ceci a été impacté par beaucoup de pratiques qui vont nécessiter de grandes réformes. Il va falloir du temps et on ne peut pas s'attendre à des résultats
lors de la prochaine élection. Mais il faut espérer que nous allons avoir un leader qui va pouvoir comprendre le peuple ordinaire. Je pense que ce ne sera pas un intellectuel, parce que c'est nous les intellectuels que Trump et ses souteneurs ont des soupçons par rapport aux experts, aux intellectuels, à ceux qui lisent de la philosophie, qui pensent à la politique au niveau plus profond, et non pas seulement par rapport à la prochaine élection. Comme Will Rogers l'a dit, je pense qu'il faudra que ce soit quelqu'un qui vient de parmi le peuple et qui parle le même langage que le peuple. Je ne pense pas que ce sera quelqu'un d'entre nous.
Ah, Françoise Meltzer, c'est vrai, les médias ont aussi été destitués durant cette élection, les chercheurs, les universitaires aussi. Ils ont perdu une partie de leur crédibilité. Qui pour défendre cette vérité? Qui pour incarner aussi cette parole?
Oui, ben, je suis tout à fait d'accord avec ce que Tom Mitchell vient de dire. Et j'ajouterais que quand même, au contraire de la France, par exemple, comme l'a fait remarquer il y a longtemps H.L. Mencken, c'est un pays qui est foncièrement anti-intellectuel. Les États-Unis, c'est important à savoir, mais ça n'empêche cette espèce d'ironie énorme du fait que un homme richissime comme Donald Trump puisse parler au peuple.